Bon midi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 pour l'émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. On parle pour toi des gros dossiers, des grosses nouvelles, on analyse la politique, on fait un peu de sport à travers ça parce que Cole Caulfield a quand même marqué un tour du chapeau samedi. Roger Brulotte nous a quitté vendredi. Monsieur Baseball au Québec. Bonsoir, elle est partie. On a entendu à maintes reprises dans nos foyers. On va d'ailleurs avoir son grand comparse, Jacques Doucet, tout à l'heure aux alentours de 13h05 en entrevue pour se rappeler les bons moments de Roger Brulotte. On aura aussi le chum Alex Laramé en fin d'émission pour parler du Canadien de Montréal, de Cole Caulfield, et aussi de Jackson Smith Njigba, qui vient de signer le plus gros contrat de l'histoire pour un receveur de passes dans la NFL. 4 ans, 168 millions. Vous le savez, cette émission-là, on l'a fait moi, Pascal CV. Normalement, c'est Antonin Iaccarini dans le caucus. Antonin est absente aujourd'hui, ça va être Victor Henriquez. Mais on a changé le plan de match un peu. Victor va être là vers 12h40. Parce que Pascal, la grosse nouvelle, c'est l'accident d'avion à LaGuardia, aéroport dans le coin de New York. Un pilote et un copilote, malheureusement, qui sont décédés d'Air Canada. C'est la grosse nouvelle, c'est ce qu'on va parler. Tu as parlé avec un spécialiste de l'aviation. Mais avant, ça brasse aussi pas à peu près en politique présentement provinciale.
Ben oui, gros lundi. Maïté Blanchette-Vézina, bon, si je vous dis son nom, clairement, qui vous voyez apparaître dans votre tête à ses côtés, c'est Éric Duhaime. Elle se joindrait officiellement au Parti conservateur du Québec. Éric Duhaime, on l'a eu en masse, puis pas à peu près dans nos entrevues ici à Boulevard 102.1. Et à chaque fois, il disait, on se courtise, comme un couple, on se courtise.
T'es même venu les deux ici en ondes, on en jase. Ouais. Bon, pas de suite, on a certains...
Faut présenter la famille.
Exactement.
Pour voir sa fille. C'était vraiment comme l'image du couple.
Il y a certains principes sur lesquels on s'entend. Ouais. C'est se fréquenter, s'envoyer des petits messages une fois de temps en temps. Mais là, ouais.
Ce serait officiel. Du moins, on aurait une publication officielle de ce couple-là politique demain. Donc, après des mois de spéculation qui concernaient la députée de Rimouski, on n'a pas d'infos à savoir ce qu'elle va rester à Rimouski, qu'est-ce qui va se passer avec elle. Mais ce serait fait. Ce serait frenché, tiens, Jeff Fortin.
Et voilà. C'est ce qu'il aurait fait.
Politiquement parlant.
On passe au premier baiser.
Serge Bonin aussi, on a des nouvelles de Serge Bonin. Il quitte Repensons Lévis pour le PQ. Donc, vous le savez, c'était la principale opposition lévisienne. Il s'est présenté aussi pour être maire de Lévis. Ça n'avait pas fonctionné. Il y avait eu une défaite à l'élection municipale. Mais là, officiellement, il quitte la tête de cette opposition lévisienne. Il veut devenir candidat du Parti québécois dans Chute de la Chaudière. On aura en masse le temps d'analyser tout ça parce que c'est souvent mal perçu. Hein. On a donné un poste d'opposition. Ça veut dire que c'était la deuxième plus haute force de cette course-là municipale. Et il dit merci, mais non merci, je m'en vais au PQ. Travaux à la tête des ponts dès aujourd'hui, je dois le dire. La route numéro 23, c'est l'avenue des Hôtels, là, de la route 175 au boulevard Laurier en direction nord. Ça, c'est fermé jusqu'à fin juillet. Attelez-vous. Ministère des Transports qui explique que l'entrave est requise pour réaménager la chaussée, les bretelles de l'avenue des Hôtels. C'est dans le cadre de la construction du corridor pour autobus. Alors ça, on va vous le mentionner, pas juste une fois aujourd'hui et encore dans les prochaines semaines. Aujourd'hui aussi que s'amorcent les audiences sur la loi de la laïcité, la loi 21 à la Cour suprême du Canada. Concrètement, là, c'est 9 juges qui devront précisément se pencher sur la question de l'utilisation de la clause dérogatoire par les provinces canadiennes. Et Donald Trump a dit qu'il avait le plaisir de nous annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu dans les derniers jours des discussions très fructueuses et même constructives en vue d'un règlement complet et même définitive des hostilités au Moyen-Orient. À suivre, c'était votre non-président Donald Trump qui parlait.
418-971-101 pour réagir par texto. On a quelqu'un qui écrit par respect pour ses électeurs. Blanchette Vézina devrait rester indépendante jusqu'à l'élection. C'est un bon point de vue. On en parle tout à l'heure dans le caucus vers 12h40 avec Victor Henriquez. Au 418-971-101, je veux que vous envahissez les textos de bonne fête, Pascal, parce que c'était 32 ans.
Une vieille affaire.
Mais
je suis en train de rancer.
Une vieille, c'est l'enfer.
Non, mais crime. Je vous crois maintenant quand vous me disiez là, qu'à partir de 30, ça va vite, puis pas à peu près.
Ben oui.
Je les ai pas vus les deux dernières années.
Non, ça déboule.
J'essaie de les remplir le plus possible à suivre pour cette année.
Moi, je suis rendu à 46. Je me souviens encore de mon party de 30. On dirait que c'était hier.
Arrête. Ça a-tu vraiment été aussi vite et violent que je trouve en ce moment?
Ouais, ça va vite, mais tu sais, la vie est belle.
Comment on fait pour ralentir le temps, Jeff? On fait des enfants?
Non, ça ralentit pas pire, vraiment le temps. Je pense à ma fin de semaine où j'ai coaché deux fois au hockey. J'ai fait du taxi en masse. Ça n'a pas ralenti le temps, vraiment.
Encore moins de temps, finalement. pour toi aussi.
Ouais, c'est ça, mais on les aime tellement, ces belles, ben oui, ces belles petites bêtes-là.
Merci pour les souhaits.
Yes, fait 418-971-1021, vous le savez, BLVD.fm, c'est notre web radio, c'est les meilleurs moments. BLVD 1021 disponible sur App Store et Google Play Store, c'est l'application twitch.tv/BLVD/FM. Plusieurs personnes avaient souhaité bonne fête à Pascal également. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Des excellents moments s'y retrouvent, dont le podcast des entrepreneurs avec Joannie Fortin. Je vous parle d'un invité un peu plus tard dans l'émission. Mais là, Pascal, sautons dans le vif du sujet. Tragédie aérienne à l'aéroport de LaGuardia, dans la région de New York, où un pilote et un copilote d'Air Canada ont perdu la vie.
72 passagers, 4 membres de l'équipage qui étaient à l'intérieur de ce vol-là. Je pense que tout le monde est un peu sous le choc. Hein? Il y avait des rumeurs, des informations comme quoi il y avait eu collision impliquant un avion qui était parti de Montréal, un avion d'Air Canada, jusqu'à LaGuardia, à New York. Puis, tu sais, on se dit, ah, il me semble que Montréal, New York, si on passe à un endroit sécuritaire pour voler,
ben
souvent, c'est ce genre de transport-là qu'on peut prendre entre le Canada et les États-Unis. Et il y a eu collision entre l'avion et un camion de pompiers qui était sur le tarmac. Donc, il est arrivé et qui a fait irruption face à l'avion. Je parlais ce matin avec Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation, de cette collision-là qui a fait 2 morts, beaucoup de blessés. On est pas mal tous à l'hôpital du côté des passagers. C'est un peu inconcevable. C'est pas supposé être ultra sécuritaire et contrôler le tarmac d'un aéroport. C'est la première question qu'on peut se poser. Puis j'ai appris que la situation était très différente entre les États-Unis et le Canada.
Ben, elle est maximale, mais c'est toujours la coordination entre le contrôleur sol et le contrôleur air à ce moment-là. L'enquête démarre. On est au premier balbutiement. Bon, grâce à certains sites Internet, on est capable d'avoir accès aux bandes audio, mais c'est pas des bandes audio qui ont été relâchées par le Bureau de la sécurité des transports encore américain, par le NTSB. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur les bandes publiques présentement qu'on a accès. Et une particularité qu'on doit dire, par exemple, et qui est bien différente entre le Canada et les États-Unis, c'est dans la procédure. Et aux États-Unis, afin de favoriser la fluidité du trafic, on donne une autorisation d'atterrir beaucoup, beaucoup plus tôt et on présume que la piste va être libérée au moment où on donne l'autorisation d'atterrir. Alors, au Canada, le contrôleur doit absolument avoir la confirmation qu'il n'y a aucun véhicule, aucun autre appareil qui peut faire une incursion de piste. Dans ce moment-ci, on entend l'appareil de Jazz, est le deuxième sur l'atterrissage et se fait donner l'autorisation, donc le fameux clear to land. Alors, on présume que l'avion en avant va être sorti de piste. On présume qu'il n'y aura pas de véhicule qui va entrer sur la piste. Donc, les procédures sont un peu différentes, Canada et États-Unis. Et ça fait longtemps qu'on en parle que c'est problématique à certains moments.
Fait que si je comprends bien, c'est qu'aux États-Unis, on dit atterrir, puis après ça, on check pour être sûr que tout est correct, contrairement au Canada, où on va faire les vérifications avant. Fait qu'il y a un...
C'est capoté.
C'est plus dangereux aux États-Unis, mais en tout cas, à mon œil à moi.
C'est un peu ce que j'ai aussi comme compréhension de ce que Charles-Éric me disait ce matin. Présumé, ça vient quand ramasser un peu les entrailles, tu sais,
présumé.
Un tarmac d'aéroport, mais bon. Il y avait des facteurs humains dans cet accident-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent être? Parce que là, on entend toujours l'enquête, on s'entend, mais il y en a toujours. Quels sont-ils?
Ben, oui, puis c'est on ne comprendra pas aujourd'hui non plus. Ça va prendre l'enquête. Il y a plein d'éléments à analyser dans l'enquête. On va aller analyser, par exemple, les facteurs humains. Donc, on va les regarder pour toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'accident. Donc, que ce soit les pompiers, que ce soit les pilotes, les contrôleurs, on va aller voir un peu le niveau d'entraînement, le niveau de fatigue, la performance au travail de ces gens-là aussi. C'était quoi aussi leur dernier 24-48 heures avant l'accident? On a dû, admettons, un des participants qui était fatigué, qui était un peu malade, qui pouvait un peu ralentir son temps de réaction.
Oui, notamment le chauffeur du camion de pompier. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu un moment, malheureusement, lunatique ou un moment d'errance, justement, mentale? Ça fait en sorte que c'est pas retrouvé au bon endroit au bon moment.
Bien, écoute, ça pourrait peut-être répondre à certaines questions, mais effectivement, il y a des facteurs environnementaux qui jouent sur les facteurs humains. On écoute.
Ensuite, on va aller voir, par exemple, dans le poste du camion de pompier, qu'est-ce qu'on voyait exactement? Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait de la pluie. la pluie, la nuit, avec les lumières, c'est pas toujours évident de bien voir ce qui arrive. Les lumières sont pas toujours claires. Il y a de la surbrillance avec les gouttelettes d'eau qu'on retrouve dans le pare-brise. Donc, c'est pas évident de bien voir. Oui, on a les communications audio qu'on enregistre, mais qu'est-ce qu'on se disait dans le cockpit de l'avion aussi? Qu'est-ce qui se passe mal à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se disait dans le camion de pompiers? On n'oublie pas, ces gens-là sont en route pour porter assistance à un autre appareil qui avait une odeur de brûlé dans son cockpit. Donc, à ce moment-là, il y a de la coordination. On se parle aussi avec l'équipe de pompiers qui est à bord. Qu'est-ce qu'on a manqué? La visibilité aussi, je parlais de la pluie, mais tu sais, la configuration du camion, qu'est-ce qu'on voyait exactement sur la piste?
Il y a toujours les autres facteurs, hein, ceux de la tour de contrôle qui essaient d'être un peu le maître de cérémonie de ces atterrissages-là, de ces camions qui vont passer sur le tarmac. Mais tout ce qui est imprévisible, on doit le compter.
On va parler au contrôleur aérien. C'était quoi ton plan de match? Pourquoi tu faisais passer ce véhicule-là? Qu'est-ce qui te permettait de croire que tu avais le temps de laisser passer le véhicule? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va analyser. Et tu sais, on a fait souvent des entrevues ensemble, Pascal, mais le fameux fromage suisse. Hein? Donc, normalement, dans l'aviation, on a plusieurs tranches de fromage suisse qui sont des barrières de sécurité, mais ce n'est pas des barrières de sécurité qui sont parfaites. Il y a des trous. Et aujourd'hui, encore là, nos coups se sont alignés dans notre fromage suisse pour amener à l'accident. Donc, là, c'est de voir comment on peut réduire nos trous de fromage, comment, pourquoi nos trous de fromage se sont alignés dans cet accident-là là, qu'on a vécu hier.
Oui, je comprends bien. Puis en plus, hein, au niveau de l'environnement, l'extrait au préalable, on sait que la météo n'était pas bonne à New York parce qu'on est en train justement de retarder certains départs de cet aéroport-là. Et là, bien vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché puis comment qu'on va faire par la suite pour émettre des procédures qui vont faire en sorte que, je vais reprendre son image, le trou du fromage suisse se rapetisse vraiment. Là.
Ben oui, puis il y a tellement de spéculations en ce moment là, qui disent « Ah, il était-tu fatigué, pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on fait travailler trop certains employés maintenant? » Mais tu sais, il faut savoir qu'il y a une chose qui est claire, puis ça, Charles-Éric Lamarche me l'a confirmé, il y a une augmentation de ce genre d'événements-là et d'éruptions sur les pistes.
Bien, au Canada, on est extrêmement proactif là-dessus. J'étais justement avec une rencontre, un congrès la semaine passée, et on avait des gens du Bureau de la sécurité des transports du Canada qui étaient là et qui parlaient, qui nous rappelaient encore cette année que les incursions de pistes, donc des événements comme se sont passés hier, et qui sont pour la plupart du temps jamais dramatiques, on les prend très, très, très au sérieux et sont toujours sur la liste de surveillance du Bureau de la sécurité des transports. Ils sont en augmentation, ces événements-là. On a de plus en plus de véhicules, on a de plus en plus de trafic. Nos utilisateurs aussi du réseau changent. Donc, comment on peut s'adapter pour limiter ce type de problématique-là? On en a eu un récemment au Brésil, 2024. Souvenez-vous, un avion sur sa course au décollage qui s'est fait passer devant par un camion de pompier, a frappé le camion de pompier. Donc, on a encore des accidents comme ça qui surviennent. On veut le réduire au maximum. L'année 2025, on a rapporté au Canada près de 639 incursions de pistes. C'était pas toutes des incursions de pistes avec des risques extrêmes. On avait seulement une que vraiment on avait un risque de collision. Le restant, c'était des risques minimes ou presque pas risqués. Donc, parce que oui, on a eu une incursion de piste, mais on n'avait pas d'avion en approche ou quoi que ce soit. Donc, c'est au Canada, on le surveille très, très, très étroitement. Le Bureau de la sécurité du transport travaille avec Transport Canada pour essayer de diminuer le nombre d'événements et diminuer le risque lié à ces événements.
Ça m'étonne le laxisme des Américains en termes de sécurité dans les aéroports.
T'sais, c'est sûr qu'on peut le voir comme ça. Moi aussi, c'est ma première interrogation. Est-ce que c'est du laxisme ou c'est une autre façon de faire, finalement?
En effet, c'est vrai, c'est un bon point.
Plus de risques. En même temps, à LaGuardia, il y a plus de vols. Ça roule pas à peu près là, à New York. T'sais, ça fait-tu partie du pourquoi c'est différent d'ici? Il va falloir vraiment lire les conclusions de l'enquête parce que, tout comme toi, Jeff, la première chose que je me dis, c'est si nous, on fonctionne comme ça, est-ce que leur façon de faire, finalement, est trop relaxe? Elle n'est pas prise assez au sérieux?
Parce qu'en connaissant pas ça, j'ai tendance à dire au Canada, on est plus sécuritaire qu'aux États-Unis.
Même constat. Puis là, on se dit, là, c'est un constat qui est un petit peu plus citadin. Là. C'est notre constat de citoyen.
De patriote.
De quidam. Là. Mais il a analysé les bandes audio, lui, puis voici ce qui en ressort.
C'est jamais évident d'écouter ces bandes-là. Il faut essayer de se détacher le plus possible lorsqu'on écoute ces bandes-là. Mais à l'oreille, on entend le sentiment de panique du contrôleur qui voit ce qui s'en vient et qui essaie de faire stopper le véhicule. Mais encore là, c'est pas évident de comprendre en premier à quel véhicule il s'adresse et est-ce que le camion de pompier aurait pu l'entendre à temps. C'est un autre, c'est spéculation présentement, mais c'est des, une écoute qui est dramatique et ça sera analysé, là, par les enquêteurs du NTSB. Probablement, comme c'est un avion opéré par une compagnie canadienne et un avion de construction canadienne, le CRJ-900, on va avoir les gens de la bureau de la Sécurité des Transports du Canada aussi qui vont être impliqués dans cette enquête-là. Donc, nos enquêteurs du Canada aussi vont être mis à contribution là, pour analyser ces bandes-là. Mais là, on a fait une première écoute encore là. Ce n'est pas des bandes qui sont nettoyées, qui sont isolées. C'est très, très dur de se prononcer présentement, puis les enquêteurs vont être là pour nous éclairer, mais c'est jamais quelque chose qui est évident à écouter.
Oui, sur la bande audio là, qu'on a fait jouer justement plusieurs reprises à Boulevard depuis ce matin, on entend clairement le stop, 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 mm-hmm. puis l'appel vers le camion de pompier. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui s'est produit entre les deux?
Puis on pouvait-tu l'éviter, tu sais, en tant que... qui dame, on se dit, on peut-tu remonter ouais. dans les airs? On peut-tu aller sur le côté?
C'est ça.
On peut-tu éviter le camion?
Non, c'est extrêmement difficile de réagir à ce moment-là. C'est un avion qui est en train de terminer sa course à l'atterrissage. On est en freinage. C'est extrêmement difficile. On est en ligne droite. C'est un avion qui est très pesant, malgré que ce soit un jet régional. C'est très pesant. Vous avez un véhicule qui vous coupe la route. On a de la misère à réagir en voiture. Imaginez lorsque vous avez un avion là, qui pèse plusieurs dizaines de tonnes. C'est vraiment pas évident. Donc, puis, tu sais, en aviation, la clé pour se sauver du trouble, c'est toujours de la vitesse et l'altitude. Alors, à l'atterrissage ou au décollage, c'est toujours des moments où on est extrêmement vulnérable.
Oui, 160 km/h que l'avion allait sur la piste d'atterrissage au moment de la collision. Donc, imaginez-vous rouler à 160 km/h avec votre voiture, puis devoir freiner brusquement, vous rentrez en contact. Là.
C'est ce qui a poté quand les pilotes ont vu leur mort. D'après moi, ils devaient le savoir. Ça, c'est vraiment une opinion personnelle qui me donne des frissons dans le dos. Puis, j'ai pas envie d'en avoir dans les prochains voyages. Probablement que vous non plus. Fait que, est-ce que c'est encore sécuritaire, malgré tout, prendre l'avion?
On n'oublie pas, le transport aérien est toujours le transport le plus sécuritaire au monde. Oui, il y a des accidents. Oui, ça arrive. Mais l'important, c'est qu'on analyse ces accidents-là. On apprend de ces accidents-là. On prend les mesures correctives nécessaires pour que ne plus que ça se reproduise le moins possible. Mais ayez confiance en vos avions. Ayez confiance en vos équipages. Ayez confiance en vos transporteurs. On a une belle industrie qui est très sécuritaire.
Merci à Charles Éric Lamarche, expert en aviation.
C'est juste qu'une tragédie aérienne, ça frappe l'imaginaire.
Oui.
Tu sais, depuis ce matin, on le voit, là, puis là, je regarde la télévision, là, on voit le devant de l'avion complètement arraché. Ça frappe complètement l'imaginaire. C'est irréel quand ça arrive. Fait que c'est pour ça qu'on a l'impression que des fois, le transport n'est pas sécuritaire, mais au contraire, il y a tellement de vols dans une journée.
Tellement, là. Puis moi, ce matin, je l'ai vu dans un certain Adam Bolestridge. Là.
Ouais.
C'était, écoute, je me suis levé à 6, fait que c'était 4 heures avant, 6 heures quasiment, où je voyais juste dernière heure un avion d'Air Canada impliqué dans un grave accident à New York. Quelqu'un a plus d'informations, est-ce une rumeur? Je me disais, ça doit être encore de l'intelligence artificielle.
Ouais, mais non, c'est vrai. C'est réel.
C'est tellement étrange de voir ça.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir avec l'enquête, parce qu'on se demandait ce matin, puis Yannick a son permis d'aviation, donc un peu plus connaisseur, si le pilote s'était pas justement dit « OK, je bouge pas pantoute mon avion, je rentre dedans puis je sauve les passagers. »
Oui, au lieu de ma propre vie.
Au lieu de ma propre vie, exactement.
Nos pensées vont aller.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
T'as entièrement raison, nos pensées vont avec eux. Merci Pascal CV, good job. C'était tellement intéressant comme dossier. Ça nous en fait connaître davantage sur le secteur de l'aviation que on connaît pas nécessairement. On passe à un autre connaisseur, un grand connaisseur de politique américaine à qui on a le bonheur de parler une fois par semaine à l'émission On en jase. J'ai mentionné Luc Laliberté. Luc, comment vas-tu?
Je vais particulièrement bien. Je peux vous assurer tous les deux que c'est un plaisir partagé que de vous retrouver.
Ah, c'est donc bien gentil, Luc. Luc, je me demandais, est-ce que cet accident-là à LaGuardia, aéroport aux États-Unis risque de devenir politique. Parce que je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'il y a eu un shutdown, on a énormément parlé des contrôleurs routiers, des contrôleurs aériens, pardonne-moi, et du fait qu'ils étaient en surcharge de travail aux États-Unis.
Voilà. Il faut savoir, c'est un dossier qui est complexe. Et ce qui s'est passé, ben, tard hier soir ou tôt ce matin, là, ce qui s'est passé, on en sait relativement peu encore sur les causes exactes. Donc, on a des correspondances, on a des discussions entre les pilotes et la tour de contrôle, mais laissons l'enquête aller de l'avant. Mais il y a un risque politique, parce que tu l'as mentionné, quand on a eu fermeture des services gouvernementaux, ou encore lorsqu'Elon Musk, on l'a presque oublié tellement ça roule dans l'actualité, mais quand Elon Musk était, entre guillemets, à l'intérieur de la machine avec son Dodge, on a effectué un grand nombre de coupures, on a exercé une pression sur l'ensemble de la machine parce qu'il y a les contrôleurs aériens, mais tous ceux qui les entourent, qui les appuient dans ce travail. Donc, de ce côté-là, il y a eu des coupures et il y a eu un travail ou une charge de travail qui était plus lourde. C'est un vieux dossier sur lequel, finalement, on est venu jeter de l'huile sur le feu parce que ceux qui sont... je fais hélas partie du groupe plus vieux parmi nous, se rappelleront peut-être que sous Ronald Reagan, il y avait eu des coupures et depuis ce temps-là, on parle de la charge du travail pour les contrôleurs aériens. Donc, est-ce que tout le contexte politique, la gestion des coupures, la volonté, disait-on, puis on se rappelle peut-être de l'image très forte de la CHM, mais on voulait dégraisser la machine, couper dans la machine, est-ce que tout ça va revenir hanter l'administration Trump et sa gestion du budget. En passant, nous sommes encore dans... Les dossiers se croisent, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes encore en fermeture de services gouvernementaux, une fermeture partielle cette fois-ci. Et ce sont plutôt les agents de la TSA, ceux qui, à l'intérieur des aéroports, assurent la sécurité. Bien là, eux se retrouvent dans une situation difficile. Puis le président a dit, on va vous envoyer les agents de ICE. Donc, on pourra en reparler, mais tout ça pour dire... Quand on parle de nos transports aériens, quand on parle des transits, de la circulation, de l'attente et de la sécurité des vols, j'étais parfaitement d'accord avec, c'est Charles qui était avant moi. Oui. Oui, donc voilà, parfaitement d'accord avec lui en disant ça demeure le moyen le plus sécuritaire, mais tu ajoutais tout à l'heure, ça frappe l'imaginaire et on s'imagine le nombre de morts à chaque fois et être à bord de ce vol-là ou être les pilotes concernés. Disons que si on est inquiet en partant, ce qui se passe au plan politique et au plan budgétaire, parfois ça vient jouer sur de l'insécurité. Alors que normalement, les choses se passent bien. Je suis un assez bon et assez grand voyageur. J'adore prendre l'avion. Je m'endors tellement je me sens en sécurité dès que je m'assois dans mon fauteuil. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde qui nous écoute.
Ben Luc, c'est quand même une bonne parenthèse que tu fais sur le shutdown partiel. Là. Les milliers de fonctionnaires fédéraux du DHS qui ont été mis au chômage technique puis qui ralentissent les aéroports en fin de semaine. Je voulais voir un peu comment ça se passait. Fait que j'ai questionné mes amis qui voyagent pour le travail. Eux autres, écoute, ils voient la différence à chaque semaine. Puis ils me disaient 4 heures pour un contrôle de sécurité. Ben, 4 heures pour la sécurité parce qu'il y a moins d'employés. On ne peut pas faire de lien direct avec l'accident, mais on peut-tu faire un lien avec la gestion de Donald Trump en se disant oui. Il est-tu en train d'en échapper tellement qu'il a décidé d'en mettre dans son assiette puis de jouer avec son impulsivité?
Écoute, j'ai envie, et là, je sais que ça a une couleur politique, mais je vais récupérer une déclaration récente de Pete Buttigieg, qui, on se souvient, était le secrétaire au transport sous Joe Biden et qui a été candidat à la présidentielle aussi. Mais il a terminé une entrevue récemment en disant, en anglais, c'est « amateur hour » aux États-Unis. Ça sent le chaos et ça sent l'improvisation. Prenons juste le cas des agents du ICE qui, ce matin, se retrouvaient dans, je pense que c'était 12 ou 13 aéroports. Et là, peut-être que les gens qui nous écoutent se disent, ben écoutez, on manque d'agents de la TSA pour assurer la sécurité. En passant, ces gens-là sont obligés d'être au travail, même s'ils ne sont pas payés. On ne les envoie pas à la maison en n'étant pas payés. Ils doivent se présenter au boulot. Il y en a 10 % qui sont en congé de maladie. Ils préfèrent rester à la maison plutôt que de se présenter. Et on en a perdu, dernier décompte, je pense qu'on est rendu cette fois-ci à 400 départs. Et il y en avait déjà eu 1000 précédemment en 2025. Donc, si c'est des vases communicants, ben peut-être que dans la tête des gens, le calcul est simple à faire. C'est envoyeur des agents du ICE faire ce que font les agents de la TSA habituellement. Et c'est là où je dis que c'est amateur comme gestion. Hier, et il semble, à la lumière des réponses qu'on a obtenues, hier, le président dit « OK, on va envoyer ICE. Comment peut-on prendre des agents qui n'ont aucune formation dans le domaine? Parce que les agents de la TSC suivent de 4 à 6 mois de formation pour bien effectuer leur travail. Comment est-ce qu'on les forme en 24 heures? Mm-hmm. Imaginons qu'on soit capable de faire ça. Ça se peut pas. Imaginons qu'on soit capable de faire ça. Comment vous coordonnez ensuite des agents du ICE qui débarquent en grand nombre dans de très gros aéroports? Là, 4 heures, là, si on est à Atlanta, Minneapolis, on est à JFK ou à Los Angeles, c'est tout à fait possible d'attendre 4 heures. Comment est-ce qu'on organise le travail, le déploiement de ces agents-là et comment on coordonne avec les agents de la TSC?
Et en sachant, Luc, les débordements des agents ICE qu'il y a eu partout.
Voilà. C'est qu'on, ça fait craindre aux gens qui sont déjà dans une situation d'attente, d'impatience puis de chaos. On leur fait craindre que ça puisse déborder. Et en termes d'image, on envoie quoi comme image aux Américains qui, dans les sondages, c'est très, très fort comme réaction négative en ont contre les agents du ICE, incluant les Républicains et incluant certains partisans de Donald Trump. Et je rappelle, un des cas les plus spectaculaires, parce qu'on le connaît un petit peu plus, c'est l'animateur de balado de podcast, Joe Rogan, qui lui-même a dit au sujet du ICE, il appuyait cette espèce de chasse aux migrants illégaux, mais lui-même est revenu en disant, grosso modo, ce sont plus mes mots que les siens, je ne m'attendais pas à ça et c'est pas ça que je voulais.
Luc, d'une improvisation à une autre, on passe à la guerre en Iran parce qu'il y a de plus en plus d'improvisation là aussi. Donald Trump dit « Je vais tout détruire les sites énergétiques de l'Iran » pour arriver ce matin en disant « Hey, on a eu des bons pour parler ». On écoute un 30 secondes de Donald Trump au pied de son avion justement qui l'a amené au Tennessee. Il y a une petite traduction par-dessus là, de l'animateur de Québec Matin à LCN. C'est vraiment les 5 dernières secondes sur lesquelles je vais revenir avec toi, Luc.
But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went.
Mr. Witkoff and Kushner.
I would say perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very,
very substantially. Ça va mettre fin au conflit.
We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit.
Ils ont été frappés de façon assez surprenante.
Bon, après avoir crié 4-5 fois qu'il avait anéanti l'Iran, après avoir dit « je vais tout scraper vos sites énergétiques », là, on règle ça avec des paroles. Mais moi, là, la fin, nos partenaires ont été... C'est surprenant de la façon dont ils ont été attaqués. On n'était pas prêt du tout à la réplique de l'Iran. On a joué au grand frère, les Américains, qui allaient tout détruire en 48 heures puis prendre le contrôle. Et c'est pas du tout ce qui arrive.
Écoute, depuis le début, d'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez savoir, quand on parle de chaos, là, gérer un pays de la taille des États-Unis, puis être transparent, ou à tout le moins bien guider sa population, mais être un pays du poids des États-Unis sur la scène internationale, quand un président ouvre la bouche, quand il prend une décision, ça a des retombées. C'est une réaction en domino, là, c'est pas long que tout s'enchaîne par la suite. Faites le bilan, si vous avez le temps. Amusez-vous à aller lire. Je dis amusez-vous, c'est pas le bon terme. Vous risquez d'être confus et la réaction va être normale. Faites le décompte de toutes les déclarations de Donald Trump puis analysez le contenu des déclarations de Donald Trump. Et il dit une chose et son contraire d'heure en heure. Si vous êtes un partenaire, si vous êtes l'Iran, bien sûr, on est en guerre, mais si vous êtes un partenaire, vous vous fiez à laquelle des déclarations, comment on se prépare pour la suite? Et est-ce qu'on est capable d'avoir une certaine cohésion en groupe et cohérence dans l'action? Et à l'évidence, l'administration Trump, quand on parle, c'est comme ça que tu l'as lancé, d'amateur hour, hein, ou de gestion amateur ou de gestion chaotique, les Américains, de plus en plus, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont accepté de suivre Israël dans ce dossier-là. L'armée américaine est suffisamment forte, habile et bien gérée pour effectuer des frappes et en dégager... C'est un peu dur et cruel, mais en dégager un maximum d'efficacité. Maintenant, il faut sortir de là après. Quels étaient les objectifs en entrant, puis comment on en sort? Juste pour ajouter au chaos, Donald Trump a dit ce matin également, puis on l'entendait dans l'extrait que Jean-François traduisait tout à l'heure, là, ce qu'il dit, c'est, ben, écoutez, l'Iran, finalement, ils sont prêts à nous parler. On discute avec eux. On a eu d'excellentes rencontres. L'Iran répond, non, on ne s'est pas parlé du tout. Donc, on envoie quoi comme message pendant ce temps-là? Parce que le dossier est complexe, mais on a entendu des représentants de l'OTAN et du Royaume-Uni, pas plus tard qu'hier, dire on est en train d'arriver à une forme de coalition de 20-22 pays qui seraient prêts à intervenir pour débloquer le détroit d'Ormuz, ce fameux détroit tellement important pour l'économie internationale, pas que pour le pétrole. C'est vrai que ça l'est, important. Mais on a dit donc qu'on serait prêts même à intervenir. Le Canada s'est tenu avec le Japon, par exemple, un petit peu en retrait en disant ben, nous, on est prêts à signer une déclaration. C'est symbolique, mais c'est un appui à cet effort-là. Mais grosso modo, donc, on crée ou on tente de créer, on discute d'une coalition. Et pendant ce temps-là, le président américain dit une chose et son contraire en ayant, pas plus tard qu'il y a deux jours, insulté les mêmes partenaires.
Mais Luc, en terminant cette entrevue-là, là, une question super simple qui me vient en tête. Ouais. On peut-tu vraiment négocier avec l'Iran? Est-ce que l'Iran a vraiment négocié avec Donald Trump ou Donald Trump veut sauver la face en ce moment puis veut expliquer pourquoi ça pourrait finir un jour?
On peut vraiment négocier avec l'Iran, même si c'est, je veux que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent, là, c'est un régime que je n'aime pas du tout et je condamne la gestion de ce régime-là. Une fois qu'on a condamné ça, est-ce qu'on est capable d'éviter que l'Iran, au plan international, ne fasse encore plus mal ou ne sévisse plus que ce qu'on faisait avant? C'est là où il y a un espace de négociation. Malheureusement, on ne peut pas intervenir dans tous les pays dans lesquels il y a des leaders autoritaires et des leaders qui traitent mal leurs concitoyens, qui en abusent ou qui, dans ce cas-ci, les torturent. Barack Obama est arrivé avec une entente avec l'Iran et jusqu'à preuve du contraire, l'Iran avait respecté cette entente-là. En gros, on assouplit les contraintes budgétaires, les sanctions financières qu'on vous a imposées et vous vous engagez à ne pas enrichir l'uranium. Moi, j'attends encore les preuves de l'administration Trump qu'on a enrichi de l'uranium, l'enrichir au point d'être en mesure de fabriquer une arme nucléaire. Il a été contredit par des gens de l'interne pas plus tard que la semaine dernière. Donc, est-ce que c'est possible de discuter avec l'Iran? On peut se mettre de l'autre côté puis se demander, est-ce possible de négocier avec Donald Trump? Parce que c'est exactement la question que ses alliés ont en tête. Donald Trump décide tout seul et il nous refile la facture. La question se pose dans les deux sens, je pense.
Oui, en effet, ça se pose pas juste dans le conflit avec l'Iran, ça se pose aussi avec le fameux plan de paix pour l'Ukraine, puis le consul de la paix pour la bande de Gaza aussi. Pas mal des initiatives en solitaire de Donald Trump qui donnent pas de résultats jusqu'à présent. Luc Laliberté, toujours un bonheur de te parler. Merci de contribuer à l'émission On en jase et je te souhaite une excellente semaine.
Bonne journée à vous, bonne journée aux auditeurs. Bye.
Salut. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Suivez-le si vous ne le faites pas sur les différents médias sociaux. On va revenir plus terre à terre dans la province de Québec et même à l'Assemblée nationale ici à Québec avec Victor Henriquez dans un instant à Boulevard 101 à l'émission On en jase. Maïté Blanchette Vézina et Éric Duhaime se seraient échangés les bagues.
Oui, il y a une alliance politique. Ils se sont frenchés politiquement parlant officiellement. Ils sont plus juste en train de tenter le terrain pour savoir s'ils pouvaient fitter ensemble.
Ce sera annoncé demain et ça permettrait à Éric Duhaime de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Souviens-toi, Pascal, Anthony nous avait expliqué à quel point c'était important pour qu'il puisse participer au débat des chefs à la prochaine campagne électorale.
Ça lui donne beaucoup de visibilité.
Exactement. Donc, on en parle immédiatement à Boulevard 101, l'émission On en jase avec Victor Henriquez.